Chers frères et sœurs et chers amis, ceci est l'étude numéro 8 et la première partie de ce message, c'est le sang qui purifie. La Bible nous dit que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Première épître de Jean, chapitre 1, verset 7. La sanctification est l'œuvre de la grâce de Dieu qui renouvelle l'être tout entier selon l'image de Dieu et nous rend capables de mourir au péché et de vivre selon la justice de Dieu chaque jour d'une manière plus complète. Tel est en effet la définition courante du progrès que la sainteté accomplit dans le cœur des hommes. Le salut en Christ est d'une manière générale une expérience double. C'est pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul qu'il dit « la justification et la sanctification » ou selon celle de l'apôtre Pierre, le pardon et la sainteté, ou encore selon celle de l'apôtre Jean, le pardon et la purification. Je répète, le salut en Christ est d'une manière générale une expérience double. C'est pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul lui-même, la justification et la sanctification, ou selon celle de l'apôtre Pierre, le pardon et la sainteté, ou encore selon celle de l'apôtre Jean, le pardon et la purification. Le besoin premier de l'homme, l'origine de la source de toute sa vie religieuse, c'est le pardon de ses péchés. Le second est cette purification qui renouvellera tous les domaines de notre être à l'image de Dieu. L'apôtre Jean unit les deux termes de cette expérience en un seul verset. Il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute nos iniquités, j'ai voulu dire nos impuretés spirituelles, mais c'est tout du même. Donc, il est fidèle et juste pour nous pardonner, et ceci de tous nos péchés, et de nous purifier de toutes nos iniquités. L'apôtre Jean nous dit lui-même que cette œuvre de purification n'est accomplie que par le sang de Christ. Il n'y a pas de terme qui répugne davantage à la pensée des hommes que ce mot « le sang ». La prédication de la croix et du précieux sang de Christ répandu en rançon pour nos âmes répugne à la majorité des hommes. Ils oublient cependant, oh oui, et combien ils oublient, croyez-moi, que ce n'est là qu'une simple image et une très solennelle exhortation de la pensée orientale qui se sert toujours d'expressions pittoresques et concrètes, les Hébreux, par ce mot « sang », entendaient ce que notre pensée occidentale comprend par le vocable « sacrifice ». Le Nouveau Testament possède trois mots faisant image, dont il décrit le sacrifice de Christ. Il nous parle simplement de la mort de Christ et nous conduit au calvaire pour nous montrer l'acte suprême de la vie terrestre du Fils de Dieu. Un second mot nous conduit au même lieu tragique pour nous faire apprécier la mesure de douleur et de honte. C'est le coup terrible pour le Père et le Fils qui se trouvaient compris dans la malédiction du péché qui a conduit le bien-aimé à la mort. Enfin, le Nouveau Testament nous parle du sang de Christ et nous conduit jusqu'au calvaire pour nous faire jeter les yeux sur celui qui y souffre à notre place et qui nous fait réaliser qu'il est pendu au bois à notre place, en effet, et que sa vie s'écoule peu à peu, afin de racheter la nôtre. Oui, le sacrifice de Jésus-Christ, de son Fils bien-aimé, aurait écrit l'apôtre Jean, s'il avait été un grec, nous purifie de toute iniquité. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ nous purifie de toute iniquité. Essayons maintenant de comprendre que la mort de Christ sur la croix par son sang versé pour nous, non seulement justifie, mais sanctifie, pardonne, mais rend saint, et pardonne et purifie, et ceci en même temps. Donc, le sang de Christ non seulement justifie, mais sanctifie, pardonne, mais rend saint, pardonne, mais purifie en même temps. Et en plus, notez bien cela, nous protège comme un bouclier. Le sang de Christ nous purifie parce qu'il nous fait prendre le péché en horreur. Sans parler de notre inclination innée pour le péché, celui-ci est souvent la chose du monde la plus alléchante et la plus attrayante. Il s'avance vers nous, revêtu de lumière, paré de beauté, rayonnant de charme, car il ne garderait pas son pouvoir sur nous s'il s'approchait de nous accompagné de tout le mal qu'il apporte avec lui. Bien des hommes le repousseraient avec dégoût s'il venait ainsi dépouillé et tel qu'il est en réalité, mais il s'approche en promettant quelques avantages, quelques bénéfices, quelques améliorations dans la vie, quelques exaltations de l'esprit. Lorsque nous en découvrons l'égoïsme, la bestialité et la bassesse, lorsque nous en mesurons la folie, l'orgueil et l'égarement, comme nous nous détournons de lui avec dégoût, oui, la hideur de ce que nous avons fait empoisonne par son souvenir et son reproche le moment même qui suit le péché. Le plaisir a fait place à la douleur et à l'accablement. Si seulement encore il pouvait y avoir un instant d'arrêt avant qu'il ne soit consommé pour nous permettre de voir le mal et le péché sous leur vrai visage, que de pièges et d'abîmes nous éviterions. Cependant, nous pouvons tous connaître ce temps d'arrêt avant de commettre le mal. Si nous regardons simplement à la face de Christ, considérez combien cette mort de la croix jette une lumière éclatante sur tous ceux qui assistent à la scène. La trahison de Judas, l'esprit vulgaire et débauché d'Hérode, le caractère tortueux de Caïphe, la couardise de Pilate apparaissent absolument en pleine lumière. Sa mort projette une lumière nouvelle sur le visage anonyme de la foule qui a crié « Crucifie-le !» et sur les soldats romains occupés à tirer sa robe au sort, et sur les passants qui se moquent de lui et l'injurient. Devant ce sacrifice, nous nous écrions « Seigneur, préserve-nous de semblables péchés !» Mais lorsque cette lumière céleste qui découle de la croix se projette sur la vie et que nous vivons chaque jour, eh bien sur notre inertie, sur notre mauvaise nature, nos appétits charnels, notre indifférence à l'égard du péché et de la souffrance d'autrui, nos mesquines satisfactions et nos vanités illusoires, notre désir inavoué de vivre sans prière et sans Dieu, comme la honte s'empare de tout notre être, nous ne contemplons jamais la croix de Christ sans découvrir quelques péchés nouveaux que Dieu nous révèle et que nous n'avions jamais aperçus jusqu'ici. Devant elle, nous ne pouvons que renouveler notre désir de consécration et de fidélité, car nous avons été purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ nous purifie parce qu'il est l'origine de toute beauté morale et spirituelle. Nous savons tous que nous avons besoin d'une parole ou d'un exemple de sacrifice pour nous faire reprendre de nouvelles forces à l'heure du découragement. Un petit enfant innocent qui chante un cantique, un homme qui accepte humblement sa croix et n'en continue pas moins à être doux, aimable et aimant, nous offre une vision de beauté morale et spirituelle qui nous entraîne à leur suite. Mais que sont ces faibles manifestations, bien imparfaites et toutes humaines, en comparaison du sacrifice parfait et divin de Jésus-Christ mourant sur la croix? Nous pensons parfois que si nous avions été témoins de ses œuvres, si nous nous étions assis à table avec lui, si nous l'avions vu laver les pieds de ses disciples, toucher le lépreux et rendre la vue à l'aveugle, nous aurions, oui, nous aussi, aurions été complètement guéris et pleinement transformés, et nos yeux auraient été décelés, et notre cœur changé, notre volonté mise en mouvement, si bien que tous nos pas ultérieurs n'auraient pu que nous porter vers les choses spirituelles. Mais approchons-nous de la croix du calvaire. Relisons en l'histoire tragique et solennelle. Pénétrons le dessein éternel qui transparaît en elle. Essayons de sonder la parfaite sainteté, non seulement du caractère de Christ lui-même, mais aussi de sa passion accomplie pour assurer aux hommes la justice de Dieu, comprenons les pensées et les émotions de ce cœur qui n'avait jamais battu que pour la gloire de Dieu. Et puis, comparons notre propre vie, nos petits désirs personnels, notre propre satisfaction, et nous nous trouverons au même moment, non point uniquement repris et consternés, mais encouragés et stimulés par cette beauté morale et spirituelle qui trouve sa source dans ce simple fait que nous avons été purifiés par le précieux sang de Jésus-Christ. Le sang de Christ purifie parce qu'il révèle l'amour de Dieu. Toute œuvre bonne accomplie dans ce monde mauvais repousse les ténèbres et nous entraîne vers la lumière. Cependant, les hommes sont capables de contempler les actes les plus sublimes, les plus chargés de signification morale et spirituelle, et de demeurer parfaitement insensibles. Judas avait contemplé le visage de douleur de son maître pendant le souper. Il avait entendu toutes ces paroles qui étaient autant d'appels au repentir. Il est cependant sorti, croyez-moi, pour perpétrer son terrible forfait. Voici un fils, témoin tous les jours des prières de son père qui ont été pour lui comme une prédication de l'Évangile, de la vie sainte de sa mère qui lui a offert l'image indélébile de la paix de Dieu. Il s'est cependant éloigné de la maison paternelle, attiré par le piège, les pièges trompeurs et les séductions grossières des ténèbres qu'il a préférées à la lumière. Il y a une puissance de purification bien plus grande que la beauté morale et spirituelle. L'amour qui supporte avec patience et qui endure tout, qui espère tout et qui croit tout. Cet amour que le péché ne peut tarir, mais qu'il émeut au contraire jusqu'à la douleur la plus vive et au sacrifice le plus total. Lorsque une âme est pénétrée de cet amour-là, de ses pensées, désirs et espoirs, eh bien, se trouve tout simplement purifiée et sanctifiée. C'est comme la marée libératrice qui nous a un jour libérés de la servitude du péché à l'heure où nous avons fait la paix avec Dieu. Mais c'est une marée qui déverse sans cesse ses flots purificateurs et rafraîchissants. Rien ne nous humilie davantage que notre infidélité. Rien ne nous inspire davantage dans nos pensées et nos actions. Rien ne purifie plus notre volonté que ce sentiment de l'amour de Dieu. Aucun croyant ne peut séparer tant qu'il en est conscient. Aucun chrétien qui a péché ne restera longtemps privé de la communion de son Père s'il repense à cet amour divin. Nous souvenir de cet amour divin, c'est trouver Christ qui jette sur nous son regard de compassion, comme il le fit pour l'apôtre Pierre, lorsque le coq chanta trois fois. Et c'est cet amour-là que nous voyons manifesté et révélé à la croix de Christ. Lorsque nous réalisons vraiment que cet amour sublime est mort pour nous racheter, nous faisons plus que nous prosterner dans l'humiliation. Nous nous relevons remplis d'une confiance nouvelle pour une vie plus consacrée et plus vigilante, car c'est le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui nous a purifiés de toute iniquité. L'apôtre Jean ajoute encore deux enrichissements à son message. Il nous parle d'abord de la vertu perpétuelle du sang de Christ. Il emploie le présent. Le sang de Christ nous purifie. Ce n'est pas un acte unique dans l'histoire. C'est une purification répétée et continuelle. Elle est aussi pour nous aujourd'hui. Bien que nous ayons été purifiés hier, nous le sommes encore aujourd'hui et nous le serons chaque fois que cela sera nécessaire jusqu'au jour où nous marcherons avec Christ en vêtements blancs. Ce sont ceux, nous dit l'Apocalypse, qui ont lavé leurs robes et qui les ont blanchies dans le sang de l'agneau. On pense à la purification continuelle de l'âme, toujours impure et plus ou moins souillée, jusqu'à ce qu'elle devienne plus blanche que la neige. Voilà un message plein de joie et de réconfort. Aucun d'entre nous n'a jamais réalisé pleinement ce qu'il souhaitait d'être ou de faire pour Dieu. Nous pouvons tous redire « Nos iniquités sont plus nombreuses que les cheveux de notre tête. Je ne puis ou je ne peux pas relever la tête. Si certains hommes sont capables de se croire parfaits, il nous suffit d'examiner honnêtement nos vies, de connaître nos propres cœurs et de revenir au pied de la croix pour nous réjouir, au contraire, de cette purification incessante et parfaite qui découle pour nous de la croix de Jésus-Christ. L'apôtre Jean nous rappelle aussi la toute-puissance de ce sang précieux. Le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de toute iniquité. Nous avons quelquefois de la peine à croire que tout péché et tous les péchés puissent être couverts. Nous croyons bien que notre tempérament, nos habitudes mauvaises, les impulsions de notre mauvais cœur, les actes ou les pensées coupables de notre vie de tous les jours nous sont pardonnés. Mais il y a des fautes graves, plus graves à nos yeux que certaines autres, et nous nous demandons si vraiment il y a un pardon pour cela. Et pourtant, c'est bien le glorieux message de l'Évangile. L'homme devient fort là, oui, là même, où il a été faible et pécheur. Le péché et l'amour que nous lui portions, les défaites et les humiliations qui en étaient les dures conséquences, sont tellement bien purifiées que ce sont désormais des choses passées. Car voici, toutes choses sont devenues nouvelles, car le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Avez-vous fait l'expérience de la grâce suprême, mes chers amis, du sang qui nous purifie? Le Nouveau Testament nous parle de quatre sortes de purification. C'est de l'eau, c'est-à-dire par cette nouvelle naissance de l'âme. Donc c'est celle de l'eau, la nouvelle naissance de l'âme, dont l'eau est uniquement le symbole, il faut bien le dire. Et quand ce changement de vie est intervenu, notre être a été renouvelé. Il nous a été donné de voir le royaume des cieux et d'y entrer. Et nous sommes passés des ténèbres à la lumière, de la mort à la vie, du royaume de Satan à celui du Fils de son amour. Intention, motif et désir, tout se trouve purifié en nous. Je répète, les intentions, les motifs et les désirs, tout cela se trouve purifié en nous par le sang versé de Jésus-Christ. Il y a ensuite la purification que produit en nous la parole de Dieu. Voici, vous êtes purs, dit Jésus-Christ à ses disciples, à cause de la sainte parole que je vous ai annoncée. Certains ou certaines des paroles de l'Écriture sainte sont pour nous comme des phrases puissantes qui illuminent nos ténèbres, qui pénètrent nos péchés comme une épée et nous débarrassent des mauvaises œuvres et des pensées coupables de la chair et du monde, comme le sécateur débarrasse l'arbre de toute pousse inutile. Il y a ensuite la purification par le feu, travail mystérieux, secret, qui jette sur nos esprits l'angoisse et quelquefois le doute. L'Esprit de Dieu se manifeste comme un feu qui consume en nous tout sentiment bas et toute pensée profane. La vision que nous avons de Christ s'est précisée. Toutes nos possibilités pour lui se trouvent augmentées et comme renouvelées. Il y a enfin une autre purification, celle que nous apporte le précieux sang de Christ. Et c'est la plus douce, la plus tendre de toutes. Et pour ceux qui ont tout particulièrement conscience de leur péché et de leur culpabilité, c'est la plus efficace de toutes. En nous approchant du mémorial qu'il a lui-même institué, nous passons au pied de la croix. Et ceci où nous nous trouvons avec une révélation nouvelle de notre péché. Oui, une nouvelle inspiration pour une vie de fidélité plus grande et un sens accru de cet amour de Dieu qui s'est révélé dans ce glorieux message, le sang de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, nous purifie de toute iniquité. Chers amis, la deuxième partie de notre étude, c'est la dynamique de la croix. La Bible nous dit, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 18. L'apôtre Paul fait ici appel à l'expérience du Nouveau Testament. Il affirme des faits indiscutables. La proclamation de la croix, le message de Jésus-Christ crucifié sur la croix pour le péché des hommes, cela était considéré par les auditeurs de l'apôtre comme une folie. C'était de toutes ces paroles celle qui soulevait la contradiction des Juifs et les moqueries des païens. Mais ne se moquaient de cette affirmation que ceux qui étaient morts dans leur faute et dans leur péché. À nous, vous et moi, chers amis, et tous ceux qui se rassemblent à Corinthe et qui liront cette lettre, qui sommes sauvés, eh bien cette proclamation de la croix et la puissance de Dieu pour vous et pour moi. Ces refus ou le refus d'accepter le message de la croix ne doit pas nous étonner. Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu, vivant une vie de parfaite justice qu'il termine ignominieusement par la mort d'un sale criminel, pour finir par une résurrection étrange et une ascension encore plus étonnante que de sujet d'étonnement et d'incrédulité. Cette histoire demeure une folie pour tous ceux qui s'obstinent à croire qu'ils peuvent délivrer leur conscience et transformer leur volonté par un enseignement noble et austère et par une stricte discipline de la vie, tout simplement. L'homme qui pense et réfléchit par lui-même ne comprend pas le pouvoir que possède l'évangéliste, le messager de la croix. Ce message reste pour lui une énigme qui le rebute. Il ne l'aide pas à faire fortune, à réussir dans une situation matérielle, à devenir un chef de peuple ou un conducteur d'hommes. Pour l'homme d'affaires, ou le politique ambitieux, celui qui accepte ce message de la croix est un mystique, un peu fou, un simple d'esprit peut-être et de peu d'importance. Pour eux aussi, la croix est un scandale et une folie. Folie encore pour celui qui aime le plaisir selon le monde. L'élévation qui peut procurer le chant des cantiques ou les chœurs qui stimulent une réunion de prières semblant une espèce de folie, une folie douce à celui qui fréquente les courses de chevaux ou les salles de jeu ou de spectacle. C'est encore une folie même pour ceux qui ont l'esprit religieux et le cœur naturellement noble. Le chef religieux du Nouveau Testament, ils ont joint leur mépris à celui de la foule, ces chefs-là, et devant la prédication de la croix. C'est curieux, ils étaient très religieux pourtant, mais souvenez-vous que les anges déchus sont aussi très religieux. Cette proclamation du précieux sang de Christ, d'une expiation nécessaire par la mort de son Fils, reste une folie pour ceux qui prétendent n'avoir besoin que de révérer son idéal et de suivre son exemple, en quelque sorte imiter sa spiritualité. Eux aussi, hélas, font partie de ceux qui périssent. Pour l'apôtre Paul, ils font partie de ceux qui périssent parce que ils n'ont pas accepté d'entrer dans le chemin qui monte vers la croix. Je possède une photographie d'un tableau très ancien. On y voit deux chemins, un large avec tous les plaisirs du monde, l'autre étroit et rocailleux qui monte vers la croix. Sur le chemin large, il y a une foule de gens, aussi des nobles parmi eux. Sur le chemin étroit et rocailleux, que quelques pèlerins. Oui, pour ceux qui sont sauvés, qui ont été rachetés et marchent sur les traces de Christ, le message de la croix et la puissance, c'est carrément la puissance de Dieu. Elle s'approche des hommes aux consciences coupables, aux vies souillées et pécheresses, aux volontés impuissantes pour faire le bien et qui désespèrent de connaître jamais la paix, l'espérance ou la pureté. Elle est la grande lumière pour ceux qui sont assis dans les ténèbres de la mort. Elle les arrache aux habitudes mauvaises qui jusqu'ici les ont tenus liés. Elle purifie leur âme de toute pensée souillée ou impure. Elle donne à leur volonté une énergie et une direction nouvelle. Comme le dit l'apôtre Paul dans la même épître, ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume des cieux. C'est sérieux tout cela. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés. Mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés. Aucun autre livre au monde ne possède une semblable liste de péchés terminés d'une semblable façon. Aucune autre puissance connue des hommes n'est comparable à cette dynamique de la croix. Pourquoi donc ce message de la croix possède-t-il une puissance de salut? Posons la question au Nouveau Testament lui-même. Et sans entrer dans le détail de tous ces passages, recherchons dans l'ensemble de ces écrits quel est le secret de cette puissance. C'est pour commencer la dynamique d'un fait sublime. Si un peintre voulait représenter l'Église de Jésus-Christ et lui donner un visage humain, il la représenterait plutôt regardant au loin, dans l'espérance d'un héritage éternel, que songe, pensivement l'humanité au fait du passé. Et cependant, le Seigneur lui-même demande à son Église de regarder en arrière vers un fait unique et central dont le souvenir doit être régulièrement évoqué, c'est la mort de la croix. Ce n'est pas par simple accident que le symbole de l'Évangile est une croix. Nous gardons avec une reconnaissance émue le souvenir des paroles du Seigneur Jésus-Christ, mais le symbole de notre foi est une croix et non un fragment des récits évangéliques. Nous étudions avec un saint respect sa vie de consécration et de sacrifice. Mais le symbole de notre foi n'est pas un visage radieux ou douloureux, mais une croix. Nous l'adorons dès sa naissance dans l'étable de Bethléem. Nous racontons à nos enfants son histoire merveilleuse. Mais le symbole de notre foi n'est pas un innocent petit bébé ou une crèche vide, mais c'est une croix, car le fait suprême et décisif dans l'histoire chrétienne est la mort du Seigneur Jésus-Christ sur le bois. Le Nouveau Testament nous montre l'importance que cet événement historique a pris dans la pensée des hommes de sa génération. La croix domine toutes les épîtres de l'apôtre Paul, mais l'apôtre Pierre, Jacques, Jean et l'auteur de l'épître aux Hébreux se tournent sans cesse vers l'agneau qui a été immolé pour vous et pour moi. Ils ont compris pourquoi le Seigneur lui-même avait mis l'accent sur sa propre mort. C'était son heure, sa coupe, son baptême, son élévation. Il était comme à l'étroit jusqu'à ce qu'il l'ait accompli. Aussi ses disciples tournent-ils sans cesse leur regard vers le passé pour évoquer une nouvelle fois la marque des clous, la tragédie de sa mort, le drame de sa solitude, la sublime sainteté de ses dernières heures, l'amour infini qui s'est exhalé sans cesse pendant chacune des étapes de son sacrifice, l'amour sublime qui s'est transformé pour eux en prière, les cris douloureux qui ont laissé entrevoir quelle était sa souffrance et son agonie. Tout cela se dresse devant ceux et devant eux comme le plus précieux des héritages, c'est la croix qui remplit leur âme de douleur et d'amour. car elle les transforme et elle les purifie. Nous comprenons, sans beaucoup de difficultés, la puissance d'un fait de cette nature. Il suffit de rappeler au peuple les souvenirs glorieux ou tragiques de leur passé pour toucher les cœurs les plus durs et faire changer les volontés les plus fortes. Un simple moniteur d'école du dimanche peut émouvoir jusqu'aux larmes son petit public par le seul récit de ce sacrifice incomparable. Aucun homme ne peut considérer le seul fait de la mort de la croix sans éprouver le sentiment que c'est là la puissance de Dieu pour le salut. La prédication de la croix est ensuite la dynamique d'une doctrine. La croix est plus, davantage, qu'un noble exemple et une source d'inspiration élevée. Elle résume, exprime et manifeste aux hommes la pensée et la volonté de Dieu. Nous sommes tous émus lorsque nous évoquons le souvenir de Moïse s'offrant lui-même à Dieu et lui demandant d'effacer son nom de son livre de vie, et ceci par amour pour les enfants d'Israël. Mais la croix est plus qu'une protection contre le péché, davantage qu'un sublime exemple de sacrifice volontaire. C'est la révélation de l'amour de Dieu, c'est la manifestation de sa réaction contre le péché, des exigences de sa sainteté et des moyens par lesquels il lui a plu de se charger de notre péché pour nous rapprocher de lui et de nos frères. Le Nouveau Testament proclame cette doctrine en des affirmations si nombreuses et si répétées que les hommes ne peuvent la nier sans rejeter son autorité et son inspiration. Celui qui étudie le Nouveau Testament trouvera une double preuve de cette vérité. Si, en effet, on examine les livres qui le composent dans l'ordre chronologique où ils ont été écrits, nous voyons les auteurs sacrés toujours plus pénétrés de l'importance et de l'absolu de cette vérité. Leur assurance devient plus ferme, leur pénétration spirituelle plus profonde, leur joie plus abondante et parfaite dans les dernières épîtres que dans les premières. Et lorsque nous comparons, chers amis, l'épître de l'apôtre Paul aux Thessaloniciens, qui est la première en date de toutes celles du Nouveau Testament, avec celle envoyée aux Romains, nous remarquons que dans cette dernière, la doctrine de la croix a été éclipsée. Et comparée, l'Apocalypse et le livre des Actes des Apôtres, et vous verrez que la vision de la croix est devenue le centre de toutes les visions célestes. Alléluia. Cela ne veut pas dire que les premiers livres du Nouveau Testament ne donnent pas à la mort de Christ une prééminence bien nette, mais avec le recul du temps, les apôtres ont vu de leurs yeux la puissance de la croix. Ils ont été amenés à en pénétrer les raisons, à en sonder le secret et le mystère, et par là même à mettre plus que jamais l'accent sur ce fait unique et décisif de l'histoire du monde. Il était nécessaire pour ces hommes des temps apostoliques, comme pour tous les autres d'ailleurs, de comprendre personnellement et expérimentalement la doctrine de la croix. Premier prédicateur d'un fait unique et exceptionnel, ils ont pu méditer et penser longuement à ce mystère caché avant que la dynamique de la croix leur apparaisse dans toute sa clarté et dans toute sa plénitude. De plus, la puissance de la croix se manifeste chaque jour d'une manière plus éclatante dans la vie des pécheurs endurcis et dont tous désespéraient. Ces premiers prédicateurs de l'Évangile pénétraient dans des pays qu'avait depuis longtemps submergé l'immoralité la plus basse et la plus complète. Il ne nous est pas possible de décrire les scènes qui se passaient alors couramment, ni même de comprendre l'atmosphère de turpitude morale et de corruption qu'avaient respiré depuis les années de leur tendre enfance ceux qui devenaient des auditeurs puis des disciples plus tard du message merveilleux de la croix. Aucun être ne pouvait se trouver plus sensible que les hommes de ces générations-là, et ceci aux évocations grandioses de la sainteté de Dieu et aux sublimes perspectives de la paix avec Dieu. Les apôtres ne se bornaient pas à leur raconter l'histoire pathétique de ce prodige d'amour qui conduisit à la mort de la croix, le Fils même de Dieu. Il ne se contentait pas davantage de leur raconter les détails incomparables de cette vie parfaite et en tout point sans défaut. Semblable attitude n'aurait eu d'autres effets que de les placer sur un chemin pour eux inaccessible et combien impraticable, en les exhortant à y marcher. Ils leur ont prêché la véritable et toujours toute puissante doctrine de la croix, et Dieu réconcilié par la croix et par la mort de son Fils bien-aimé, le pardon était offert gratuitement aux plus coupables et la paix intérieure gracieusement accordée à la conscience la plus tourmentée. Et quel autre message avons-nous aujourd'hui à présenter à l'ivrogne ou à la femme de mauvaise vie qui hante les trottoirs de nos boulevards? Que pouvons-nous dire à l'homme que tourmente son péché toujours renouvelé et son impuissance sans cesse expérimentée à s'en délivrer? Et lorsque nous voyons toutes ces créatures mortes, dans leur faute, il faut le dire, et dans leur péché, trouvent enfin en Dieu la paix que nul ne peut ôter et faire de sa communion leur délice. Eh bien, nous avons, n'est-il pas vrai, quelques raisons supplémentaires de croire à la dynamique de la croix. La prédication de la croix est encore la dynamique de la loi. Il y a dans la doctrine chrétienne d'autres lois d'un rang et d'une importance moins grande. La douceur de Christ, sa bonté et sa charité, sa patience envers le pécheur, sa persévérante recherche de la brebis perdue. Oui, c'était la persévérante recherche de la brebis perdue, rappelez-vous. C'était sa joie en la compagnie des petits-enfants. C'était sa bienveillance envers les humbles. Et tous ces aspects admirables de sa vie sont devenus pour nous, chers amis, des lois depuis qu'il nous a demandé de le suivre pas à pas. Mais pour les hommes du Nouveau Testament, la croix était la suprême loi de la vie. À l'heure où tout va bien, où jeunesse, santé, affection et réussite semblent s'unir pour fleurir notre route, les lois ordinaires et quotidiennes de Christ suffisent à nous éclairer et nous conduire. Mais lorsqu'il arrive les jours où notre force semble tarie en nous, où les échecs et les difficultés s'accumulent, quand le mépris des hommes nous flagelle et que leur moquerie nous glace comme le vent d'hiver, nous rentrons en nous-mêmes et passons dans l'angoisse de l'épreuve de longues nuits, des nuits de silence et de solitaire agonie. Et c'est alors qu'à la suite des apôtres, nous retournons sous les exigences de la loi suprême de la croix. Écoutons, chers amis, quand il nous a recommandé toutes ces choses, écoutons-le. Quand vous portez les fardeaux, par exemple, les uns des autres, comme nous le décrit l'apôtre Paul, qui ont la difficile mission de convaincre ceux qui s'écartent de la saine doctrine, il y en a autour de nous, et notre devoir serait de les aider pour éviter qu'ils s'écartent de cette saine doctrine. Et qui a souffert pour nous tous? C'est ce que nous écrit l'apôtre Pierre. Il écrit à ceux qui l'épreuve a rempli d'angoisse. Il écrit tout cela à ceux qui sont remplis d'angoisse et nous laisse un exemple afin que nous suivions ses traces. Lui qui a porté en son corps nos péchés sur le bois, comme il a donné sa vie pour nous, a écrit l'apôtre Jean, rappelant au cœur égoïste le sublime sacrifice de la croix. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères et sœurs. Regardons à Jésus-Christ, c'est ce que affirme l'auteur de l'Épître aux Hébreux, et à tous ceux qui sont tentés de regarder en arrière. Lui qui a souffert la croix et qui a été méprisé. Si j'en avais le temps, je pourrais émouvoir vos cœur par la seule énumération de tous les actes exceptionnels accomplis en obéissance à cette loi de la croix. Je pourrais évoquer devant vos yeux l'exemple des premiers croyants, immobiles au milieu de l'arène et détournant les yeux des fauves qui vont se jeter sur eux, et des spectateurs sans aucune pitié qui les observent pour les fixer sur la croix qui brille aux cieux. Je pourrais faire revivre devant vous les premiers rassemblements des croyants dans le silence des catacombes et vous montrer ces croix gravées sur tous les murs pour les soutenir à l'heure de l'épreuve et les détourner de la tentation si naturelle de fuir le coupe, oui, la coupe que le Père Céleste avait préparée pour eux. Nous aurions certainement essayé de fuir cette coupe. Combien d'autres exemples mettraient ainsi en évidence les fruits sublimes et insoupçonnés de la loi de la croix. La prédication de la croix est enfin une dynamique de motifs. C'est une vérité évidente et parfaitement simple. C'est l'utilisation la plus fréquente de l'œuvre de la croix dans tous les écrits du Nouveau Testament. Nous savons tous avec quelle profusion, nous dirions presque quelle prodigalité, les apôtres se réfèrent à elle. Quelqu'un est-il tenté de s'enorgueillir de ces œuvres-là? Qu'il regarde à la croix. Celui-ci risque-t-il d'être orgueilleux, fier ou intransigeant dans ses jugements? Y a-t-il quelqu'un qui se dérobe à son devoir, refuse les sacrifices ou les responsabilités, supporte avec amertume les épreuves de la vie? Le suprême recours pour chacun est encore et toujours dans la croix de Christ. Quand un homme trébuche et lorsqu'il cherche plus, davantage ou moins inconsciemment à s'égarer hors du droit chemin, ça peut nous arriver, et lorsqu'il fait des expériences douloureuses et pour lui inexplicables, lorsqu'il passe par la vallée de l'ombre de la mort, les hommes du Nouveau Testament dressent la croix devant ses yeux, devant nos yeux. Aucun d'entre nous ne s'est jamais humilié, n'a jamais accepté avec douceur les recherches d'autrui et accepté sans amertume les mauvais propos ou l'incompréhension de ses frères sans un contact permanent et quotidien avec la croix. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui persistent, mais elle est la puissance de Dieu pour ceux qui sont sauvés. Il n'y a que deux possibilités. Laquelle choisissez-vous, chers amis? Si vous n'avez pas encore fait le choix qui s'impose, eh bien nous vous en supplions, faites-le sans tarder et dès maintenant, et soyez réconciliés avec Dieu. Chers amis, avant de terminer par la prière, j'aimerais vous donner quelques mots d'encouragement que l'Esprit Saint de Dieu me donne maintenant pour vous. Parvenez en la présence de Christ et à un silence intérieur toujours plus complet. Le moi ne meurt pas dans la lutte acharnée, ni même dans l'ardeur de la prière, mais bien plutôt lorsque on prend vraiment conscience de sa présence et des valeurs spirituelles qu'elle représente. Le moi, dans cette prise de conscience, se dessèche jusqu'à perdre toute vie et à s'évanouir. Il est d'une importance capitale de s'habituer à vivre avec Jésus-Christ, de se tenir si près de lui qu'on en vienne à ne plus faire qu'un avec lui dans la mesure où l'homme le peut. Comprenez-vous maintenant à quel point sont nécessaires l'entraînement et la discipline que le Seigneur vous a proposé avec tant d'insistance? Ils sont essentiels parce qu'ils harmonisent votre être et votre esprit avec sa pensée et ses intentions. Quand la pensée du Seigneur devient votre pensée, vous pénétrez dans le temple et dans le saint des saints. Vous saisissez le sens de tout ce qu'il a pu dire ou faire et de tout ce qu'il a été. Pour acquérir cela, chers amis, sacrifiez tout le reste. Il faut que votre travail soit un travail inspiré. Où trouver l'inspiration nécessaire? Sinon, en la présence de Jésus-Christ, votre Seigneur et Sauveur. Prions maintenant. Seigneur, notre Dieu, aie pitié de nous et de nos faiblesses, lorsque nous nous présentons devant toi pour te bénir et pour te prier. Sans l'assistance de ton Saint-Esprit, nos cœurs ne savent et ne peuvent s'élever à toi. Notre attention ne saurait même se fixer pendant quelques courts instants. Nous sommes de feu pour les intérêts de ce monde, pour les vanités de cette vie. Et nous sommes de glace pour toi, pour le salut que tu nous présentes, pour cette vie éternelle qui nous attend au-delà du tombeau. Nous agissons comme si toute raison, toute prudence était éteinte en nous, puisque nous ne pensons pas et nous ne cherchons pas avant toute chose à faire notre paix avec toi et à travailler tandis qu'il fait jour et avant que la nuit vienne. Puissions-nous, par ton secours, sortir de cette déplorable langueur. Puissions-nous veiller et prier afin d'être trouvés prêts à paraître devant toi. Puissions-nous faire un bon usage de ce jour que tu nous accordes encore et de passer dans la paix, l'obéissance et le recueillement. Nous t'invoquons, Seigneur, pour nos familles, nos amis, pour tous ceux qui souffrent et que tu visites par des épreuves. Affermis-nous dans une foi sincère et prépare-nous ainsi toi-même pour l'éternité, que notre prière parvienne jusqu'à toi, ô notre Dieu, au nom et pour l'amour de ton Fils bien-aimé, notre unique Sauveur. Amen. Amen. Et chers amis, n'oubliez jamais, jamais, que Dieu vous aime. C'est une réalité. Et nous vous aimons également de tout notre cœur. Soyez bénis et merci pour l'intérêt que vous portez à ces messages, à ces études. Et à bientôt, à nouveau, je vous dis au revoir, mes chers amis.